À ma femme, prenons notre temps. On couche en ville, il n'y a rien qui presse. On va commencer ce matin par un petit mot de prière. Robert, le frère de sa femme, Georges, était à l'hôpital. Notre soeur, ce matin, disait, qu'est-ce qu'il y a, Georges? Georges, OK, c'est ça. Il était à l'hôpital, puis on va prier pour Mike aussi. Son épouse me disait que ce matin, il n'était pas trop bien. Puis, s'il y en a ce matin qui sont rentrés ici avec des fardeaux ce matin, que ça peut être la santé, juste lever la main, que ça peut être des fardeaux financiers, que ça peut être des fardeaux, de toutes sortes de fardeaux qu'on rentre dans l'Église de Dieu. Mais lorsqu'on vient dans l'Église de Dieu, les fardeaux, c'est là qu'il faut les déposer, au pied de la croix, afin que le Seigneur entreprenne. Amen. C'est le seul qui peut le faire dans nos vies. Et ce matin, tous ceux qui ont levé la main, puis qu'on puisse élever devant lui pendant qu'on va prier nos fardeaux, afin de les déposer à la croix, et s'attendre à ce que notre Dieu agisse. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, en tant qu'assemblée, Seigneur. On te prie, Seigneur, pour Georges, Seigneur, qui est à l'hôpital, Seigneur. Puisses-tu mettre ta main sur lui, Seigneur. Toi, tu connais tous ses besoins. Tu connais tous ses bobos, Seigneur. Tu connais ses luttes, ses craintes aussi, Seigneur. Puisses-tu être avec lui, Seigneur. Puisses-tu le toucher, Seigneur. Puisses-tu faire une œuvre dans sa vie, Seigneur. Sois avec Mike, Seigneur, ce matin, lorsqu'il est à la maison, Seigneur, souffrant, Seigneur, qu'il puisse regarder à toi, Seigneur, qu'il puisse attendre à toi, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre dans sa vie, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Et pour tous ceux qui ont levé la main ce matin, Seigneur, nombreux sont les mains ce matin, qu'on puisse s'attendre à notre Dieu, qu'on puisse élever nos besoins vers lui, qu'on puisse lui faire confiance, parce que notre Dieu veut encore agir dans nos vies aujourd'hui, veut encore restaurer, veut encore guérir, veut encore bénir, veut encore délivrer, parce qu'il est notre Dieu. Seigneur, fais une œuvre ce matin, Seigneur. Fais une œuvre, Seigneur, au nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, je vais apporter ta parole, Seigneur, humblement devant toi, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et qu'elle puisse faire du bien aussi dans des cœurs, Seigneur, qui seront réceptifs à ta parole, Seigneur, afin que nous amener dans une plus grande relation avec toi, afin qu'on puisse se confier davantage en toi, grandir dans tes voies, marcher devant toi, au nom de Jésus, Père. Amen, Seigneur. Alléluia. Ce matin, je voulais vous parler de la bénédiction de l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est surtout mettre en pratique. La bénédiction, mettre en pratique. La bénédiction d'avoir une relation avec Dieu, parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Il veut qu'on mette en pratique sa parole. Parce qu'il veut nous bénir. Puis je regardais un passage cette semaine, j'étais à la maison, puis je regardais un passage de Deutéronome 28. Là, ça parlait, c'est Dieu qui parlait au peuple d'Israël, puis il disait au peuple d'Israël, « Si tu obéis, si tu écoutes. » Puis là, après ça, il donnait une série de bénédictions. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, peut-être qu'on peut en tirer un enseignement spirituel de ce que Dieu disait à son peuple d'Israël, pour ce temps-là même. Puis quand il disait, si tu obéis, si tu écoutes, il y a quelqu'un qui me disait, un de mes amis, il me disait souvent, il dit, moi, Michel, il dit, les prédications, je les ai toutes entendues. Fait qu'il dit, j'ai plus besoin d'entendre des prédications, je les ai toutes entendues. Il dit, « À ce temps, je vais à l'église juste pour mes petits-enfants, pour qu'eux autres y entendent à leur tour. » Mais Paul lui dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que pour vous, cela vous est salutaire pour votre âme. Parce qu'on n'a pas juste besoin d'écouter des prédications, on a besoin d'en mettre certaines parties en pratique dans nos vies. Ça m'a fait penser à une petite histoire que j'avais lue un moment donné. C'est un missionnaire qui s'en va en mission. Puis avant de partir, quand il revenait, il était sur son retour, puis ça ne donne pas de parler des missions un matin, il donne une Bible à quelqu'un, puis il dit, hey, « Lis-les le Nouveau Testament, lis-les, c'est important, tu vas avoir le salut pour ton âme. » Fait que ça fait demain, 3-4 ans après, il revient, il rencontre le même gars, il dit, « Puis, t'as-tu lu ta Bible? » Ben, il dit oui, il dit, je suis rendu à Matthieu chapitre 5. 4 ans, il dit, t'as juste lu les 5 premiers chapitres de Matthieu? Ben, le gars, il la regarde, mais il dit, ben oui, mais c'est du stock mettre ça en pratique. Puis des fois, nous, dans notre génération, on a toutes les cassettes, on a tout entendu, on a des prédicateurs, on a tout pour être béni, on entend des merveilles de Dieu. Mais comment que ça a touché nos cœurs? Comment est-ce que ça a touché nos vies? Comment est-ce qu'on a été transformés? C'est ça qui est plus important. C'est ça que Dieu veut dans nos vies. Ce matin, je vais parler un petit peu de Deutéronome 28, 1 à 14. Ça nous dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Puis eux, ce qui leur arrivait physiquement, souvent ça dit que nous autres, on peut l'appliquer spirituellement dans notre vie. Ça dit que dans 1 Corinthiens 10, ça dit, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et c'est pas mal vrai. On va commencer par un verset sur l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi mettre en pratique? Hein? Jean, il dit... Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Hein, comme mon ami qui me disait tout le temps, en vous trompant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et prie et qui, après s'être regardé, s'en va. Quand je lisais ça, des fois, je me disais, eh mon Dieu, il y a bien des fois, moi, le matin, quand je me regarde dans le miroir, je vais oublier ce que j'ai vu. Parce que, à chaque fois qu'on vient ici, le dimanche, ma femme avait me couper les cheveux, trois semaines. On veut oublier ce qu'on a vu. Puis, naturellement, on le fait, on veut oublier ça. Puis, il y a même des fois que spirituellement aussi, le Seigneur nous parle sur des choses dans nos propres vies, mais des fois même, on voudrait l'oublier. Parce que, tu sais, on ne veut pas trop... Mais le Seigneur, il est patient. Il revient, puis il nous parle, puis il nous amène tranquillement vers ce que Dieu veut faire dans nos vies. Puis le verset continue, ça dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Ésaïe 1:19 dans l'Ancien Testament, ça nous dit, « Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile. » Quand je lisais ce verset-là, là, de la bonne volonté et être docile, ça veut dire, quand on regarde ça aujourd'hui, ça n'a pas une bonne connotation dans notre société d'aujourd'hui. Dans notre société d'aujourd'hui, où tout le monde veut pas se laisser faire. Hein? Être docile pour le monde aujourd'hui, c'est se laisser faire, c'est se laisser manger à laine sur le dos, c'est on veut réclamer nos droits, on veut faire notre propre volonté. C'est ça dans notre génération aujourd'hui. Mais si on a de la bonne volonté, on est docile. Ça veut dire si on a un cœur enseignable, si on a un cœur sensible pour les choses de Dieu. Luther, il disait tout le temps, Il dit, moi, je préfère obéir, j'aime mieux obéir que de faire des miracles. C'était quelque chose, qu'est-ce qu'il disait là? Il dit, moi, j'aime mieux obéir que de faire des miracles. La parole de Dieu, elle nous dit que ceux qui obéissent en feront des miracles. Hein? Parce que c'est ça, ça dit dans Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais, et peut-être même des plus grandes. Plus tard, il avait compris que l'obéissance était quelque chose de vraiment sérieux. On va regarder sept points aujourd'hui dans Deutéronome 28, puis on va regarder comment est-ce qu'on peut les appliquer spirituellement dans nos vies d'aujourd'hui. Deutéronome 28, 1 à 13, on va le lire ensemble. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et ton menu bétail, toutes les choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. Il y avait des merveilleuses promesses de la part de Dieu. Hein? Des merveilleuses promesses. Des promesses extraordinaires. Puis on va en relever sept, puis on va regarder comment nous aussi, spirituellement parlant, on peut les appliquer pour nous aujourd'hui. Premièrement, il leur promettait le soutien matériel. Il leur disait au verset 5, « Ta corbeille et ta huche seront bénies. » Savez-vous c'est quoi une huche? Oui. Une huche, nous autres, quand on était jeunes, on appelait ça la boîte à pain. Hein? La boîte à pain. On appelait ça la boîte à pain. Quand on était jeunes, nous, on restait en campagne, puis on allait en ville. Puis on achetait quatre quarts de pain, là, ils appelaient ça quatre quarts de pain. Il y en a d'autres qui appelaient ça quatre pains. J'ai jamais su la différence de ça, là. Hein? Il disait un pain. Moi, des fois, mon père me demandait un pain. J'arrivais avec juste un morceau. Il disait non, c'est quatre. Probablement que c'était quatre quarts pour faire un pain, je ne sais pas. Fait que là, on mettait ça dans la boîte à pain, puis on en sortait un fouet, puis on mettait ça dans la petite corbeille à pain. Le pain ici, ça nous fait penser à nos besoins qui sont nécessaires. Dieu promettait à son peuple de lui donner ce qui était nécessaire. Tout ce qui était nécessaire. Si on regarde dans l'Ancien Testament, la veuve qui lui restait un petit peu d'huile, dans 2 Rois 4, il lui restait qu'un peu d'huile. Elle a béni quelqu'un, mais en retour, elle a été bénie. Elle a eu toutes sortes de pots d'huile qu'elle a pu payer ses créanciers, puis elle a eu de quoi pour vivre aisément. De quoi pour vivre aisément. Dieu veut répondre à nos besoins quotidiens. Dieu veut répondre à tous nos besoins. À tous nos besoins. Aujourd'hui, on vit dans une société que des fois, ce n'est pas juste nos besoins, mais c'est du luxe aussi. On veut beaucoup de luxe dans notre société d'aujourd'hui. Mais Dieu veut répondre à nos besoins. À nos besoins. Tu sais, notre Père, ça dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est quoi nos besoins? C'est la nourriture, le vêtement, le logement, ce qu'on a besoin pour vivre. C'est ça, notre pain quotidien. C'est ce qu'on a besoin. Des fois, on réclame à Dieu des choses qui n'est pas vraiment notre besoin. Mais c'est des choses qu'on veut avoir, un peu comme la société veut. Donne, 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 donne. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quels sont nos besoins? J'écoutais à la TV un moment donné, puis c'était Pierre-Yves McSween qui parlait. Je ne sais pas s'il y en a qui l'entendent. Des fois, il parle beaucoup sur l'argent, lui. Comment qu'on peut faire pour accumuler de l'argent dans notre société? Puis là, lui, il posait la question. Quand tu achètes de quoi, il dit, faut que tu te poses la question, en as-tu vraiment besoin? Mais lui, il se posait cette question-là pas pour les bonnes raisons. Il se posait cette question-là, lui, parce que lui, dans sa tête, c'est qu'il voulait sauver de l'argent pour pouvoir accumuler beaucoup d'argent pour devenir financièrement indépendant avec l'argent. Ce n'était pas vraiment, lui, pour ses besoins. C'était pour n'accumuler, pour n'avoir plus, puis n'avoir plus, puis n'avoir plus. Mais le peuple de Dieu, si Dieu nous bénit, si Dieu nous bénit, c'est pas pour qu'on essaye d'en avoir plus, mais si Dieu nous bénit, c'est pour bénir à notre tour. Un peu comme la veuve qui a béni l'homme de Dieu, mais qui en retour a été béni. Souvenons-nous dans Luc 12, 18, le riche qui accumulait tout dans ses greniers, il se bâtissait dans ses greniers. Insensé. Toi-même, ton âme sera insensé. Des choses accumulées. Oui, Dieu nous promet le soutien matériel. Il promet de rencontrer nos besoins. Mais il ne nous a pas promis une richesse extraordinaire. Il nous a promis de rencontrer nos besoins. Et si Dieu nous bénit abondamment, bien Dieu veut qu'on bénisse en retour. Ça me fait penser, quand j'étais à Laval, chez Sam, il y avait un homme, que je le voyais des fois, puis lui, il passait le balai lors des agapés, puis il ramassait les chaises puis les affaires. Puis un moment donné, en sortant de l'église, il dit, Michel, j'étais avec Pauline, puis il dit, « Hey, venez donc manger au Château Mirabel. » Bien, dans ce temps-là, c'était à l'aéroport. L'hôtel existait dans ce temps-là encore. Puis c'était un gros restaurant là-bas. « Hey, il dit, venez donc manger. » Moi, je me sentais tout choyé d'avoir été invité à manger. J'ai dit, « On va avoir un plaisir, juste nous autres avec les autres, toute l'équipe. » Mais on a ce restaurant-là, bon, je pense qu'on était 35-40. Il y avait lui, puis là, après, il m'a expliqué, il dit, moi, là, il dit, Dieu m'a tellement béni, parce qu'il vendait des affaires, des gréments oratoires, là. Je ne sais pas si c'est le même qu'on peut dire ça. En tout cas, des affaires pour les cultivateurs. Fait qu'il dit, moi, je suis assez béni. Dieu me bénit tellement qu'il dit que moi, je ne sais pas quoi faire dans l'église, mais la seule affaire que je sais faire, c'est que je peux inviter les gens au restaurant le dimanche après-midi. Il dit, je paye pour tout le monde. Il dit, ça ne me dérange pas, c'est comme ça que je veux bénir les gens. Puis il dit, je peux donner à l'Église, puis ça en moppe un peu, parce qu'il dit, je suis béni, mais je veux bénir. Je veux bénir. Et si Dieu nous bénit, c'est pour bénir. Philippiens 4, le verset 18-19, Paul, il disait, j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, recevant, par Épaphrodite, ce qui vient comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dieu pourvoit, veut pourvoir à nos besoins. Pourvoir à nos besoins. N'oublions jamais le verset qu'on apprenait quand on était un petit peu plus jeune, c'est de le Seigneur est proche. Connaître vos besoins à Dieu par des soupirs et des supplications. Dieu veut répondre à nos besoins. Souvent, la richesse ou avoir trop de choses, ça peut devenir un piège. Ça peut devenir un piège. Le Proverbe 38,9, c'est « Me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et te dise qui est l'Éternel. » Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Dieu veut pourvoir à nos besoins, à tous nos besoins. Le deuxième point, c'est une protection que Dieu voulait donner à son peuple d'Israël. Le verset 7, ça dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. » Dieu voulait avoir une relation avec eux parce que Dieu voulait les délivrer de tous leurs ennemis. Quels sont les ennemis aujourd'hui, spirituellement parlant? C'est quoi? Nos ennemis, c'est la chair, c'est le monde, puis c'est Satan. C'est ça, nos ennemis. Hein? C'est ça, nos ennemis. Nos ennemis... Ah, j'avais mis un petit verset pour le peuple d'Israël. Ça dit, « Un seul d'entre vous en poursuivra mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous, comme il vous l'a dit. » Le peuple d'Israël, Dieu voulait combattre pour eux autres. Et Dieu veut combattre pour nous aussi aujourd'hui. Le verset 2:16, ça dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est ça le monde, et l'orgueil de la vie, c'est tout ce que Satan essaye de nous inculquer dans notre cœur. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est ça, nos ennemis. Et Dieu veut nous aider à combattre nos ennemis. Dieu veut combattre, comme il a combattu pour le peuple d'Israël, Dieu veut combattre pour nous. Dieu veut nous aider avec notre chair. Dieu veut nous aider avec le monde. Dieu veut nous aider avec Satan. Il nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on est plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Amen. Dieu veut combattre pour nous. Dieu veut combattre. La Bible nous dit, Éphésiens, nous tous, nous étions de leur nombre. On était dans ce monde avant. Puis on vivait selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Puis on était des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est content qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Spirituellement, on est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut juste que notre espérance et notre corps le rattrapent. Mais pendant ce temps, on a encore à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits méchants, mais on a un aide. Le Seigneur est avec nous. Colossiens 1:13, ça dit, « Il nous a délivrés. Il nous a délivrés, et transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Amen. On est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Romains 8, 37, ça dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » C'est quoi ça, un plus que vainqueur? Un plus que vainqueur, c'est pas juste que quelqu'un qui est vainqueur sur le moment, mais c'est quelqu'un qui sait que lorsque on aura un problème, le Seigneur est là pour nous aider à le surmonter. C'est ça, un plus que vainqueur. Pas juste lorsqu'il va y avoir un combat, on va être vainqueur. Oui, mais si des choses arrivent et ils s'en viennent, on va être plus que vainqueur parce qu'on sait que le Seigneur va être encore là. Ou il va être encore là. Puis on va pouvoir s'appuyer sur lui parce qu'on va être plus que vainqueur. Hébreux 13, 6, ça dit, le Seigneur, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je suis protégé. Amen. Est-ce que vous êtes protégé ce matin? Est-ce qu'on ressent la protection de Dieu sur nos vies? Le Seigneur veut nous l'accorder, cette protection pour nos âmes. Troisièmement, ça dit, il voulait leur donner au peuple d'Israël une vie prospère. Le verset 8, ça dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. C'était toute une bénédiction, ça, hein? Dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Mais que veut dire une vie prospère spirituellement? Quand je pense à ça, je pense au verset de Josué 1:8 qui disait « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Mais est-ce juste la parole? Paul y dira dans Timothée, « La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente. » La promesse de la vie présente. La parole plus la piété. La parole plus la piété. Mais une vie prospère, qu'est-ce qu'une vie prospère dans le Seigneur? Une vie prospère dans le Seigneur, pour moi, c'est comme un cheminement. C'est un cheminement avec Dieu. C'est une marche avec Dieu. C'est un cheminement. Le psaume 1, ça dit, on doit être comme un arbre enraciné près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. On doit être enraciné dans le Seigneur. On doit être enraciné. Ça doit être un cheminement. On doit faire un cheminement. Dans ce monde, lorsqu'ils veulent te guérir, ils t'envoient voir des psychologues ou autres, puis ils disent, on va faire un cheminement avec toi. Mais on est bien mieux de cheminer avec le Seigneur. On va être encore bien plus bénis de cheminer avec le Seigneur. Amen, c'est un cheminement. J'aime le verset dans Jérémie 17, 7 et 8 qui dit, Il dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Les racines étendues pour aller chercher ce que Dieu a à nous offrir. Amen. Une vie prospère, c'est une vie enracinée dans le Seigneur. Une vie enracinée dans le Seigneur. Le quatrième point, c'était une communion permanente. Le verset 9, ça dit, « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. » Dieu voulait que son peuple soit un peuple saint. Un peuple saint pour lui. Deutéronome 7, c'est ça que ça disait. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples sur la face de la terre, mais parce que l'Éternel vous aime. Amen. On pourrait dire, ce verset-là, on pourrait l'appliquer à nos vies aussi. Être un peuple saint pour le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés par sa grâce souveraine. Il nous a séparés par son sang qui purifie. Il nous a réconciliés. Il nous a transformés à son image. On est en communion avec le Père et le Fils. On est un peuple saint pour lui. Et Dieu est avec lui. Et pourquoi il nous a choisis? Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Comme il avait aimé le peuple d'Israël. Il nous a aimés le premier. Lorsqu'on était sans force, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés le premier. 1 Pierre 2, 9, ça dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus-Christ, acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez autrefois pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant ayez obtenu miséricorde. » C'est merveilleux, ça? C'est merveilleux. Puis il va nous dire dans Matthieu 28, 20, « Allez, faites donner les nations des disciples, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous, frères et sœurs. Il marche, il veut marcher avec nous. Il veut un peuple saint qui soit avec lui. Le sixième point, ça dit un témoignage puissant. Il avait dit à son peuple d'Israël, « Si tu m'écoutes, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. » C'est ça que Dieu voulait faire avec eux. Dieu voulait un peuple béni par la présence de Dieu, un peuple que les nations autour verraient leur bénédiction et qu'ils verraient la gloire de Dieu et qu'ils seraient attirés à venir à vouloir ce Dieu-là, eux aussi. Mais ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné. Parce que le peuple d'Israël voulait faire leur volonté. Leur volonté. Isaïe 63, 19, ça disait, « Ceux qui sont appelés par son nom doivent être gouvernés par lui. » Mais Israël ne voulait pas être gouverné par Dieu. Il voulait faire leur volonté. Mais ça n'a pas fonctionné. Et le Seigneur, c'est ça qu'il veut faire encore aujourd'hui. Il veut un peuple qui a un témoignage, qui marche avec Dieu, afin que les gens autour voient un peuple qui est béni par Dieu, un peuple qui marche avec Dieu, un peuple que Dieu agit dans leur vie, afin que ça puisse les attirer, afin que ça puisse, ils puissent se dire, « Wow, Dieu marche avec eux, Dieu est avec eux, je veux quelque chose comme ça, moi. » Amen. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut faire un témoignage puissant dans le peuple d'Israël. Mais il veut faire un témoignage puissant encore aujourd'hui. C'est ça que Dieu veut faire. Si le Seigneur règne sur nous et en nous, la bonne odeur de son nom, ça va sentir à l'extérieur. Ça va sentir à l'extérieur. Les gens vont nous voir différents. Les gens vont nous voir changer. Le nom du Seigneur sur nous implique que sa vie, son caractère, doit vivre en nous. On doit être une lumière dans ce monde. On doit être un témoignage pour Dieu. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Matthieu 5, 16, ça dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça que Dieu veut pour nous. Un trésor abondant. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Le Seigneur voulait donner à son peuple son bon trésor, un trésor abondant. Amen. Et pour bénir avec les trésors de sa grâce. Amen. Ça dit dans Éphésiens 1, on est béni dans les lieux spirituels de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Puis là, ça commence à dire, en lui, on a été sauvés. En lui, on a obtenu la rédemption. En lui, on a été scellés. En lui, on a obtenu l'héritage. Trésor de grâce. C'est ce que Dieu fait en nous envoyant son Fils puis en nous envoyant le Saint-Esprit. C'est pour les trésors de sa grâce. Tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ est extrêmement abondant et infiniment précieux. Amen. Quand le Seigneur a ouvert son bon ciel pour nous, nous avons besoin pour ce temps et pour l'éternité. Amen. La vie éternelle, un héritage qu'on peut déjà puiser, mais un héritage qui est aussi à venir. Une communion avec le Père et le Fils. Éphésiens 3:8, Paul y parle des richesses incompréhensibles de la grâce de Dieu et de Christ. Pourquoi incompréhensible? Parce qu'il y a tellement de richesses que Paul il dit, on ne peut même pas comprendre toute la grandeur de Dieu. Tellement il y en a. Puis tellement Dieu veut bénir. Il y a quelqu'un qui a écrit, quand toutes les ressources humaines sont épuisées, sa plénitude reste la même. Voilà ce qui satisfait mon cœur. Et pour moi, gloire à son nom. C'est quelque chose. Et le septième point, il voulait donner au peuple d'Israël un honneur spécial. Parce qu'il voulait dire à... Oh! L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. J'avais quelqu'un à Rimouski qui me disait tout le temps, il me disait tout le temps ça. Quand on parlait, lui disait... Nous autres, les chrétiens, on est la tête, on n'est pas la queue. Il me disait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que là, il avait pris ça dans les bénédictions que Dieu voulait pour le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Cette bénédiction-là pour le peuple d'Israël, ça va s'accomplir un jour quand Israël, il va accepter le Seigneur dans les tribulations, puis il va se convertir. Puis après, dans le millénium, il va être une bénédiction pour les nations, ça nous dit la parole de Dieu. Ça va s'accomplir là. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est quoi être en haut? C'est quoi tu seras toujours en haut? Tu seras la tête et non la queue? Bien, Colossiens, ça nous dit, Colossiens 3:1-3, ça nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. C'est ça que ça veut dire. On est des gens, on n'est pas des gens d'en bas de ce monde, mais on est des gens d'en haut du ciel. On est des gens célestes. On est des gens pour s'affectionner aux choses d'en haut. Amen. Afin que les gens reconnaissent que sa bénédiction est sur nous. On est des gens d'en haut. Vive pour les choses d'en haut. Si je regarde les bénédictions que Dieu avait promis au peuple d'Israël, on peut les retrouver pour nous aussi. Il leur avait promis un soutien matériel. Il leur avait promis une protection divine, une vie prospère, une communion permanente, un témoignage puissant, un trésor abondant, un honneur spécial. Toutes des choses que nous aussi, on a de besoin pour nos vies. Amen. Puis qu'on peut vivre avec le Seigneur si on marche avec lui, si on a une relation avec lui. Comme j'ai dit tantôt, si on a un cheminement avec lui. Amen. On va prier ce matin. Alléluia. Pendant que les musiciens vont s'avancer, s'ils veulent terminer avec un chant. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur. À avoir un cheminement avec toi, Seigneur. Afin que tu puisses bénir, Seigneur. Pas juste nous bénir, mais bénir autour de nous, Seigneur, les gens qui nous entourent, Seigneur. Afin qu'on soit une lumière pour les gens de ce monde, Seigneur. Pour ta gloire, pour ton honneur. Amen, Seigneur.
Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Michel. Amen. Chantons un dernier petit cœur qui dit « Règne en moi ». S'il y en a qui ont des besoins, qui veulent vraiment avoir des prières, je pense que Pasteur Michel va être prêt à prier pour vous autres personnellement. J'aimerais juste à vous avancer pendant qu'on va chanter ce petit cœur-là. Règne en moi, Seigneur Dieu.